CILS FM, la voix de votre communauté.
Le projet Cap Ouest, rendu possible grâce à l'appui financier du Fonds canadien des radios communautaires, vous est présenté par les stations
CFRG 93.1 FM, la voix des prairies, Gravelbourg. CHPL 92.1 FM, Plamondon.
CIBR Radio Taïga 103.5, Yellowknife.
Et CILS 107.9 FM, Victoria.
Des prairies et de l'Ouest canadien, en Saskatchewan, en Alberta, au Yukon et en Colombie-Britannique, Sport et Santé Magazine, votre rendez-vous hebdo à l'antenne de votre radio communautaire, va commencer dans quelques instants. Au menu cette semaine, les actualités sportives et santé dans les revues de presse de l'émission, auxquelles s'ajouteront chroniques et interviews comme d'habitude. Marie-Hélène est avec moi en studio dans la première partie de l'émission pour évoquer le souvenir d'une grande alpiniste canadienne, Phyllis Mundy. Je rejoins par ailleurs en Europe un couple de cyclistes, Louis et Diletta, qui ont suivi le fleuve Danube sur une distance de plus de 500 km. Ils auront pour nous plusieurs conseils en matière de cyclotourisme. Dans la portion santé de l'émission, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec la massothérapeute vancouveroise Marie Arcan, qui livrera sa réflexion sur les soins de massothérapie prodigués aux athlètes olympiques et de haut niveau. Bonne émission à tous. Dans l'émission hebdomadaire Sport et Santé Magazine, l'honneur d'ouvrir l'émission revient comme toujours aux disciplines sportives. On va donc commencer avec une courte revue de presse sportive qui sera suivie par la chronique de Marie-Hélène un petit peu plus tard et par la suite par une interview spéciale sur le cyclotourisme. Alors on commence tout de suite avec la Coupe du monde de hockey, sport national, ça s'impose, on a une Coupe du monde qui pointe à l'horizon, c'est dans quelques semaines à peine, toute l'équipe se prépare, l'équipe du Canada bien sûr. Je vous cite quelques passages d'un article paru dans le journal La Presse au cours des derniers jours. Mike Babcock avait eu seulement 3 jours pour préparer l'équipe canadienne avant les Jeux olympiques de Sochi il y a 2 ans. L'entraîneur-chef de l'équipe Canada de hockey aura plus de temps pour évaluer sa formation avant la Coupe du monde de hockey. Le camp d'entraînement commence ces jours-ci à Ottawa, près de 2 semaines avant le début officiel du tournoi, le 17 septembre à Toronto. Mike Babcock et ses adjoints auront donc tout le temps voulu pour évaluer l'état du gardien partant Carey Price notamment, ainsi que la brigade défensive de l'équipe Canada. Pour aller justement à Price, qui est l'une des pièces maîtresses de cette équipe Canada 2016, il est bien sûr récipiendaire des trophées Vezina et Hart en 2015, c'est le gardien étoile du club canadien de Montréal. Il y a beaucoup de doutes qui a plané sur son cas dans les derniers mois. Il revient d'une longue blessure, d'une longue convalescence. Donc, âgé de 29 ans, il se dit actuellement pleinement rétabli de sa blessure au genou. Blessure qui l'a forcé à rater presque l'ensemble de la dernière saison de hockey professionnel de la LNH. Donc, tout le monde se demande un petit peu si les réflexes de Carey Price ne sont pas un peu émoussés. Après 10 mois sur la touche, pourra-t-il retrouver rapidement ses repères? Combien de temps Mike Babcock peut-il lui accorder dans un tournoi de 2 semaines? Voilà autant de questions qui sont soulevées dans cet article paru dans le journal La Presse. Nous comprenons qu'il n'a pas joué de match compétitif depuis un bon bout de temps, a noté Équipe Canada, mais c'est un peu la même chose pour les joueurs qui n'ont pas participé aux séries éliminatoires de la LNH cette année ou au championnat du monde. Ils n'ont pas joué depuis 4 ou 5 mois. Donc Price finalement n'est pas si différent des autres membres de l'équipe côté forme physique. Le Canada disputera 3 matchs préparatoires, incluant 2 matchs en 2 soirs face aux États-Unis. Mike Babcock a récemment déclaré qu'il n'allait pas faire jouer le même gardien lors de ces 2 soirs. Donc on peut s'attendre à ce que Price affronte les Américains. C'est du moins ce que les observateurs s'entendent pour prédire. Cet article paru dans la presse évoque également les défis que devra affronter l'entraîneur Mike Babcock du côté de la brigade offensive. Il y a 6 nouveaux attaquants qui n'étaient pas aux Jeux Olympiques de Sochi il y a 2 ans. 6 nouveaux attaquants donc qui se joignent à l'équipe. Alors c'est un casse-tête pour l'entraîneur. On se demande par exemple qui jouera aux côtés de Sidney Crosby. On suppose que c'est peut-être Stamkos, un joueur qui joue pour le Lightning, qui est très connu dans la LNH. Crosby, Stamkos sur la même ligne, c'est une possibilité que plusieurs envisagent. Il y a d'autres questions comme ça. Je le disais, c'est un puzzle avec lequel devra jouer l'entraîneur-chef Mike Babcock. Donc c'est un dossier à suivre. On y reviendra prochainement. Rappelons que le Canada est le pays hôte de cette Coupe du Monde de hockey 2016 et que le tournoi qui débutera le 17 septembre se conclura le 1er octobre. On passe d'une Coupe du Monde à l'autre. Du côté du football, ou si vous préférez du soccer, il y a déjà les éliminatoires en vue du Mondial 2018, donc de la Coupe du Monde 2018. Cet article paru dans le journal L'Équipe.fr, un journal très important en Europe, un journal qui se consacre uniquement au sport, fait le topo un petit peu de ces éliminatoires qui débutent déjà en prévision du Mondial 2018. L'Argentine qui a gagné 1-0 contre l'Uruguay et le Brésil qui a gagné 3-0 en Équateur se sont imposés lors de la 7e journée des qualifications pour la Coupe du Monde de football 2018 en zone, donc pour la poule Amérique du Sud. Notons que les stars Messi et Neymar ont marqué et que le Chili a perdu face au Paraguay. Donc l'Argentine est en très bonne posture actuellement. Elle est à la tête de la poule sud-américaine de qualification pour ce Mondial 2018 de Russie. Le Brésil est également bien positionné. Le Chili toutefois traîne la patte, c'est assez étonnant puisque il s'était illustré ces dernières années, l'équipe du Chili était nettement dominante. On se demande actuellement si elle pourra participer à ce Mondial 2018 de Russie. Donc c'est encore en train de se dessiner cette composition des équipes du Mondial 2018. Si vous voulez lire le compte-rendu complet, celui de l'équipe, le journal L'Équipe sur le portail l'équipe.fr est très très complet. Autrement, aux États-Unis, aux internationaux de tennis des États-Unis qui battent leur plein actuellement, la tenniswoman Serena Williams a égalé un record de l'ère moderne appartenant à Martina Navratilova en signant une 306e victoire en carrière en Grand Chelem, un gain de 6-3, 6-3 contre Vania King lors du 2e tour des internationaux des États-Unis. Serena Williams a cogné 13 aces sous le toit fermé du stade Arthur Ashe. Elle a amélioré sa fiche en tournoi majeur à 306 contre 42 pour un pourcentage de victoire de 87,9%. C'est énorme. Seulement Roger Federer, avec 307 victoires, a gagné plus de matchs que Williams en Grand Chelem dans l'ère moderne du tennis qui a débuté à la fin des années 60. Donc Serena Williams aura l'occasion d'égaler la marque de Federer samedi quand elle affrontera la Suédoise Johanna Larsson. L'aînée des sœurs Williams, Venus, a aussi facilement atteint le 3e tour des internationaux de tennis 2016 en battant l'Allemande Julia George. 6-2 et 6-3. Voilà, c'est tout pour ce petit journal sportif. Je vous retrouve de l'autre côté de la pause musicale. On va entendre l'auteur, compositeur, interprète MCC qui va nous chanter la pièce Monco. Au retour, je retrouve notre fidèle chroniqueuse Marie-Hélène qui nous parle cette semaine de l'alpiniste britanno-colombienne Phyllis Mundé. Tout de suite après, je rejoins en Europe le Canadien Louis Gagnon et l'Italienne Diletta Damine. Ils forment un couple d'adeptes de cyclotourisme qui vont nous faire le récit de leur voyage en Autriche et quelques trucs, nous fournir quelques trucs au passage. À tout de suite. Voilà qui complète ce journal sportif. Voilà qui complète cette revue de presse sportive dans Sport et Santé Magazine. N'allez pas trop loin, on fait une courte pause musicale avec l'auteur, compositeur, interprète MCC qui chante la pièce Monco. Au retour, je retrouve notre fidèle chroniqueuse Marie-Hélène qui nous parle cette semaine de l'alpiniste britanno-colombienne Phyllis Mundé. Tout de suite après, je rejoins en Europe le Canadien Louis Gagnon et l'Italienne Diletta Damine, un couple d'adeptes de cyclotourisme qui vont nous faire le récit de leur récent voyage en Autriche et nous livrer quelques trucs au passage. À tout de suite.
Et la mer est loin derrière. Elle s'est vue un devoir une dernière fois. Tout petit qu'il était, le garçon s'en allant dans une nouvelle maison. Laisser le champ dans du béton. Il a fait triste frôle la vie dure. Fuira tout à lui et tes mains seront remplies de sueur. Qu'il est loin le grand air, respirant la poussière, s'affaiblit sous la brume de la chaleur qui fume, s'abreuvant. Plus entendre, il ne finira pas cette horloge qui te colle à la peau et leurs yeux qui se mêlent au fardeau. Ils se sont rabattus dans la ville, le travail si soudain, leur orbe et leur lune, ils ont crié à tue-tête. Petit garçon, prisonnier, qu'il est loin le grand.
Vous êtes à l'écoute de Sport et Santé Magazine. On retrouve Marie-Hélène pour la chronique sportive. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour.
De quoi parle-t-on, ou plutôt de qui parle-t-on aujourd'hui?
On parle d'une grande colombo-britannienne ou britanno-colombienne, oui. Phyllis Mundé, née Phyllis James.
D'accord.
Alors, elle était une alpiniste. Elle a vécu entre 1894 et 1990. Oui. Elle est morte à 96 ans. Elle était une alpiniste, une exploratrice, une naturaliste et une humanitarienne, l'humaniste plutôt.
Oui.
Et elle était la première femme à atteindre le sommet du Mont Robson avec Annette Bock en 1924. Et avec son mari, Don Munday, elle a découvert le Mont Weddington.
Oui, je connais l'histoire de cette découverte.
C'est ça, ils ont exploré tous les alentours par la rivière Franklin et la rivière Omatco. On lui a donné l'Ordre du Canada en 1972 pour son travail avec les guides, les jeunes filles guides du Canada, oui, et l'ambulance Saint-Jean, aussi bien évidemment que pour sa carrière d'alpiniste. Il y a une montagne qui s'appelle le Phyllis Engine, donc la machine à Phyllis, qui est une espèce de formation rocheuse.
Nommée en son honneur.
Et c'est tout près du mont Garibaldi, donc. Il y a le mont Munday aussi qui est nommé pour elle et son mari Don.
D'accord.
Et il y a même une petite montagne qui s'appelle le Baby Munday Peak, qui est née pour leur enfant, leur fille Edith. Alors, elle est née au Sri Lanka. Elle est venue en Colombie-Britannique en 1901, donc sur la partie continentale, et vers l'intérieur, plus, et là, évidemment, à Vancouver en 1907. 1912, elle a gravi le mont Grouse avec son groupe de girl guides, donc de guides. Elle a aussi rejoint en 1915 à l'âge de 21 ans, donc elle est encore très jeune, le British Columbia Mountaineering Club. Alors, mountaineering, c'était plutôt de l'alpinisme, mais c'était de la randonnée en montagne aussi, donc c'était comme un peu entre les deux. Et a commencé à aller visiter des places comme Mount Seymour, The Lions, Mount Antelis, puis Mount Garibaldi. Alors, elle a rencontré son futur mari en 1918 et il y a eu un petit incident plus ou moins romantique qui se plaisait tous les deux à raconter de la façon dont ils se sont rencontrés.
Ouais.
C'est que, bon, ils étaient ensemble dans un groupe qui était en train d'escalader une montagne et il a perdu pied, Don a perdu pied sur une moraine glacée et il est venu en danger de glisser dans une crevasse profonde. Alors, Phyllis a sauté pour l'aider, pour essayer de rétablir sa balance. Et là, à ce moment-là, c'est elle qui a manqué de balance. Alors, entre eux deux, ils ont réussi à retrouver pied. Et puis, bon, évidemment, ça a été le début d'une grande histoire d'amour.
D'accord.
Et à 11 mois, leur première fille, Edith, a été amenée sur la cime du mont Crown Mountain.
Est-ce que c'était bien prudent de faire ça?
Ben, peut-être à ce moment-là, c'était un peu d'insouciance, parce qu'encore maintenant, on sait que les gens qui partent l'hiver, donc sur le toit des montagnes, c'est des montagnes où il y a des glaciers, ils y allaient sans doute en été, parce que la température est quand même froide, mais pas glaciale dans les glaciers l'hiver, l'été. On sait qu'il y a des gens au tout début qui avaient des skis de fond et qui avaient des harnais pour les enfants. Qui ont amené leurs enfants à ce qu'ils font pour des excursions. Les enfants ont dû se faire amputer les jambes parce que,
évidemment... À cause des engelures. Hein?
Ben, c'était plus qu'une engelure, là. C'était complètement glacé. Ouais. Alors, c'était une autre époque, effectivement. Alors, en 1916, elle a fondé le mouvement guide ici en Colombie-Britannique. Elle a établi la première brigade de l'ambulance Saint-Jean à North Vancouver en 1920. Elle est devenue membre honoraire à vie en 1938 du Alpine Club of Canada, qui est encore un club qui est très connu.
Oui.
Elle a reçu l'Ordre du Canada en 1972 et en 1998, il y a eu un timbre canadien qui a été fait en son honneur.
Génial.
Génial.
C'est quelle montagne qu'elle a découverte?
Weddington, c'est bien ça.
Weddington.
Oui, c'est Weddington.
Je connais un petit peu l'histoire puisque c'est à partir du mont Arrowsmith sur l'île de Vancouver. Elle était au sommet avec son mari Don, dont tu parlais. Et c'est de ce point de vue qui est situé à environ 1900 mètres d'altitude, et d'où on peut voir Vancouver très bien, de l'île de Vancouver, donc par temps clair, bien sûr. Alors, j'imagine que c'était une journée excessivement claire et ils ont aperçu ce sommet qui doit pas faire loin de 4000 mètres, c'est à confirmer, mais c'est un sommet majeur. Je crois que c'est le plus haut sommet de la Colombie-Britannique.
Oui, effectivement.
Ils ont pu l'apercevoir de Arrowsmith, qui correspond, pour ceux qui connaissent moins bien, à Nanaimo, environ.
Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils ont regardé sur une carte pour savoir qu'est-ce que c'était, c'était blanc. Il y avait rien, il y avait jamais été gravi. On savait pas du tout qu'est-ce que c'était.
Voilà.
Alors ils ont dit, c'est leur esprit d'aventure qui a dit, hey, faut y aller. Il y a personne qui l'a vu, on va être les premiers.
Et ça, c'est au 20e siècle. Là. C'est qu'il y avait
début
encore
des années 1900 là.
Voilà, il y avait encore des portions de la Colombie-Britannique qui étaient terra incognita.
En fait, quand on connaît l'histoire de la Colombie-Britannique avec les Européens.
Ouais,
on parle pas de l'histoire pré-contact là. Ça commence seulement dans les années 1850.
C'est fou, ouais, en effet. Marie-Hélène, merci pour ce petit portrait biographique de Phyllis Munday. Merci Marie-Hélène.
À la prochaine.
Vous écoutez Sport et Santé Magazine, merci d'être à l'écoute encore cette semaine. Nous sommes dans la portion sport de l'émission. Nous allons faire une interview à présent qui parle de cyclotourisme. J'ai avec moi deux invités au bout du fil qui ont fait un grand voyage de vélo en Europe. On va essayer de voir, pour le bienfait des auditeurs, si les voyages de cyclotourisme sont réalistes d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue forme physique. Et on va essayer de voir si ces voyages-là en valent la peine. J'ai au bout du fil Louis Gagnon et Diletta Damine, un couple qui a fait un grand voyage en Autriche récemment. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bon, pour les auditeurs qui nous écoutent, on va commencer par parler des aspects pratico-pratiques. Les Canadiens qui souhaitent faire du cyclotourisme en Europe, est-ce que c'est possible quand même de faire ça, d'emmener son vélo en Europe et de faire du cyclotourisme, que ce soit un tandem ou deux vélos, peu importe, est-ce que c'est quelque chose qui que vous recommanderiez?
Ça dépend du coût du vélo, en fait. C'est ce que je dirais. Si la personne est attachée à son vélo, à un bon vélo, et qu'elle est prête à payer les frais que la compagnie aérienne requiert pour le transport du vélo, qui seront probablement d'une centaine de dollars l'aller, donc 200 dollars en tout, c'est mon estimation. Ça vaut la peine d'amener un vélo. Sinon, il y a des agences, différentes agences de voyage qui peuvent louer des vélos. Ou il y a toujours aussi moyen de se mettre d'accord pour acheter un vélo usagé sur Internet, par exemple, et de le revendre après, en partant, ou de le laisser à une connaissance.
D'accord. Et une fois sur place, est-ce que c'est possible de réaliser un voyage de plusieurs centaines de kilomètres sur plusieurs jours dans un budget tout de même raisonnable? Est-ce que c'est réaliste d'ambitionner, de prévoir ce genre de voyage abordable?
Oui, bien, ça dépend du pays où on choisit d'aller. L'année dernière, nous sommes allés en Istrie, qui est une région à moitié entre la Slovénie et la Croatie. Et ici, les prix étaient vraiment à bon marché, très raisonnables. En Allemagne et en Autriche, c'était un peu plus cher. Pour dormir, nous avons dormi dans des bed and breakfast nous avons utilisé une autre solution qui s'appelle Airbnb, qui sont des privés qui décident de louer des chambres dans leur maison.
Oui.
Et ça a coûté environ entre 50 et 70 euros par nuit.
D'accord. Est-ce que c'est possible aussi de recourir au réseau de couchsurfing qui
est... Exactement. Nous avons utilisé aussi ça.
D'accord. Donc,
quelques nuits. Donc, ça, c'est aussi une autre solution qui est beaucoup moins chère parce que tu ne vas rien payer pour la nuit.
Voilà.
où il y a beaucoup de camping aussi le long du Danube. D'accord. Donc, il y a aussi cette solution.
Ok, ok, formidable. Et pour les restaurants, est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'est possible de s'en tirer à bon compte?
Ben, les restaurants, c'est sûr que comme partout dans le monde, faut dépenser. Mais c'était pas extrêmement cher. En fait, si on compare avec les prix moyens, l'Allemagne et l'Autriche, bon, on s'en sortait facilement à 40 euros la soirée pour deux personnes. Sinon, ben c'est sûr qu'on peut s'arrêter dans des supermarchés, puis pour même pas une dizaine d'euros, se faire un souper.
Oui.
Par exemple, pour nos dîners, on achetait des fruits puis du pain dans les supermarchés, puis ça nous coûtait presque rien. Les déjeuners étaient souvent inclus, où est-ce qu'on dormait.
Oui.
Ou sinon, s'il y a des gens qui sont vraiment sur un budget plus serré, on a vu des campeurs qui campaient un peu librement le long des parcours, parce qu'on trouve toujours des endroits un peu gazonnés. Puis ça semblait être toléré, là. Disons, les campeurs démontaient tôt le matin et partaient.
D'accord.
Faisant ici, le budget se résume presque seulement aux billets d'avion, puis aux éventuels trains ou transports en commun que les cyclotouristes voudront prendre.
OK, OK. Donc, c'est éclairant. Ça permet d'éclairer un peu notre lanterne. Autrement, lorsqu'on est sur le point d'entamer un voyage comme ça, on fait une liste. Est-ce qu'il y a des choses vraiment dans la préparation qui sont importantes de mentionner ici, que ce soit sur le plan de la mécanique du vélo ou sur le plan de l'itinéraire? Quelles sont les choses les plus importantes à inscrire sur la liste juste avant de partir?
Oui, il y a beaucoup de choses à considérer. Bon, les bagages, par exemple, les outils. Quels outils est-ce qu'on veut amener?
Oui.
Pour répondre à cette question, ça peut être important aussi de savoir un peu où on va aller. Est-ce qu'on va être dans un endroit ou dans des endroits où il y a des magasins qui font des réparations de vélo? Si la réponse était oui, on peut peut-être amener un peu moins d'outils. Pour donner un exemple, nous, nos deux voyages, on a eu des rayons qui ont lâché sur le vélo.
Oui.
Donc, cette fois-ci, on a été dans un magasin acheter un rayon de vélo, et par chance, c'était un rayon qui était facile à changer. Donc, la roue n'a pas été maganée, on n'a pas eu besoin d'utiliser des outils spécialisés. L'an dernier, on n'a pas été aussi chanceux. À la fin du voyage, la roue était complètement finie. On a été chanceux de finir le voyage, en fait, avant que la roue casse, sinon on aurait été obligé d'en acheter une autre.
D'accord.
Les outils essentiels, ça serait une pompe, chambre à air, rustine pour réparer les chambres à air trouées. Huile, un peu d'huile quand le voyage est long, il pleut, une mini bouteille d'huile avec un distributeur, un bec. C'est pratique, les outils pour les ajustements, la selle. Comme par exemple, nous, on a un outil, là, on appelle ça un multi-tool pour le vélo. Ça coûte 20-30 $. Puis là, avec ça, tu peux quasiment démonter tout le vélo. Là. T'as tout ce qu'il te faut. Tu peux même démonter la chaîne aussi.
D'accord.
L'autre chose, à part les outils, qui est assez importante, c'est le parcours. Donc, nous, on utilise un site qui s'appelle Grasshopper.
Oui.
Grasshopper.com. Et ce site-là va chercher les cartes de OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est une base de données. C'est un peu comme un Google Maps, mais complètement libre.
Oui.
Donc, quiconque est libre d'aller éditer et ajouter les parcours de vélo, les rues. Et c'est très complet, là. C'est pas broche à foin. On trouve tout. On trouve plus d'informations que sur Google Maps, souvent. Ça va nous indiquer où sont les abreuvoirs, où sont les abris pour la pluie, où sont les pistes cyclables surtout. Et bon, ensuite, sur ce site-là, le graphhopper.com, on peut mettre un parcours avec plusieurs points. Comme nous, on a mis nos 20 points là où est-ce qu'on dormait. Il nous fait le lien entre les points, puis il nous indique aussi l'altitude. Donc là, on pouvait voir, mettons, que notre voyage, on a commencé à 550 mètres d'altitude, puis on a fini à 150 mètres à Vienne.
D'accord.
Donc, ça nous donne un point de vue très détaillé, puis ça nous aide aussi à prédire combien de temps on va prendre pour faire le voyage.
Formidable. Donc, c'est très informatif. Merci. Le temps file, malheureusement. Diletta, peut-être une anecdote ou un souvenir précis de votre récent voyage en Autriche?
Bien, oui. Hein. Peut-être c'est aussi utile de considérer comment on s'habille pendant le voyage.
Oui, bien sûr.
Parce que parce que on a, pendant le parcours, on a trouvé un orage.
Oui.
Et donc, avec, et on a presque pris la grêle. Et on a réussi à éviter, on a été heureux parce que nous avons, nous étions au milieu de la campagne. Et on a réussi à trouver une église avec un petit abri, un pont, un, comment ça s'appelle en français?
Une bâche.
Merci. Et on a réussi à éviter de, d'être complètement pris dans l'orage, mais...
En 10 minutes, on est passé du soleil
ouais.
à l'orage électrique avec la grêle.
D'accord. Eh ben, pour avoir vu les photos de votre voyage, personnellement, je pense que ça a été vraiment magnifique. Vous avez partagé de nombreuses photos. Les propos que vous venez de nous donner sont éclairants, informatifs. On se reparlera sans doute de cyclotourisme une prochaine fois. Pour le moment, c'est tout le temps dont on disposait. Encore merci Louis Gagnon et Diletta Damine pour ce partage.
Ça fait plaisir.
Merci à toi.
Merci.
Moi, on surnomme Mademoiselle. Je suis de Montréal et de long passage à Québec. Mes rêves sont des États-Unis. Plus précisément de New York City. J'adore les perles noires de Tahiti et le champagne que j'ai déjà bu à Paris. Mais dites-moi, monsieur le vendeur, auriez-vous dans vos coffrets un bijou précieux pour mon cœur? Écoutez-moi, monsieur le vendeur, je n'ai pas besoin d'un aspirateur. Écoutez-moi, monsieur le vendeur, je cherche en vain pour moi une vie meilleure. Ne partez pas, monsieur le vendeur, j'achèterai tout, je jure sur mon honneur. J'ai du thé, du café, asseyez-vous, monsieur le vendeur. Vendez-moi tout ce qui ressemble au vrai bonheur. Je vois que vous en avez trois, un vert, un jaune, un orange, et ma pulsation ne cesse d'augmenter. Juste à l'idée que je vais peut-être le trouver, pardonnez-moi si j'ai l'air excité. Le bonheur, je l'ai cherché, je dois à tout prix le trouver. Réconfortez-moi, monsieur le vendeur, auriez-vous dans vos coffrets un bijou précieux pour mon cœur? Écoutez-moi, monsieur le vendeur, je n'ai pas besoin d'un aspirateur. Écoutez-moi, monsieur le vendeur, je cherche en vain pour moi une vie meilleure. Ne partez pas, monsieur le vendeur, j'achèterai tout, je jure sur mon honneur. J'ai du thé, du café, asseyez-vous, monsieur le vendeur. Vendez-moi tout ce qui ressemble au vrai bonheur. Qu'une femme ennuyée, j'ai très mal à l'âme, j'ai été oubliée. C'est la vie qui vous a envoyé. Vendez-moi ce que je cherche pour me sauver. Écoutez-moi, monsieur le vendeur, je n'ai pas besoin d'un aspirateur. Écoutez-moi, monsieur le vendeur, je cherche un vin pour moi, une vie meilleure. Ne partez pas, monsieur le vendeur, j'achèterai tout, je jure sur mon honneur. J'ai du thé, du café, asseyez-vous, monsieur le vendeur. Vendez-moi tout ce qui ressemble au vrai bonheur. Au vrai bonheur. Au vrai bonheur. Au vrai bonheur.
surnomme Mademoiselle. Je suis de Montréal et de longs passages à Québec. Mes rêves sont des États-Unis, plus précisément de New York City. J'adore les perles noires de Tahiti et le champagne que j'ai déjà bu à Paris. Mais dites-moi, monsieur le vendeur, auriez-vous dans vos coffrets un bijou précieux pour mon cœur?
L'artiste Valérie Clio dans l'émission Sport et Santé Magazine. On a entendu la pièce Monsieur le Vendeur. Vous écoutez Sport et Santé Magazine. Nous entrons maintenant dans la portion santé et mieux-être de l'émission. Avant d'aller à l'interview avec la massothérapeute Marie Arcan, on commence tout de suite avec une revue de presse santé et mieux-être. Le premier article concerne les kilos en trop, le surpoids. Une nouvelle étude américaine éclaire cette question. Le titre de l'article paru dans le journal La Presse, quelques kilos en trop peuvent être dangereux pour la santé. Pas besoin d'être obèse pour que le surplus de poids soit dangereux. Seulement quelques kilos de trop suffisent, selon une nouvelle étude américaine. Une équipe de l'Université de la Californie du Sud a épluché 239 études réalisées à travers le monde et regroupant quelques 10,6 millions de participants. Leur analyse a porté sur les participants non fumeurs qui ne souffraient d'aucune maladie chronique et qui était toujours vivant 5 ans après le début de l'étude. Que ce soit en Amérique du Nord, en Europe ou en Asie de l'Est, aussi bien l'obésité que le simple surplus de poids ont été fortement associés aux décès attribués à la maladie coronarienne, aux accidents vasculaires cérébraux et aux maladies respiratoires. Une association plus modeste a été constatée avec la mortalité attribuable au cancer. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, calcule que 1,9 milliard d'adultes souffrent d'embonpoint à travers le monde, ce qui signifie que leur indice de masse corporelle s'établit entre 25 et 30. Les conclusions de cette étude sont publiées dans le journal médical britannique The Lancet. On passe maintenant à une avancée très importante dans le domaine de la nanomédecine, ou si vous préférez, de la médecine de précision. C'est une avancée qui nous vient du Canada, de Montréal, des nanorobots pour combattre les tumeurs, une avancée révolutionnaire du côté de l'École Polytechnique à Montréal. C'est un article paru dans la presse il y a quelques jours à peine. Je vous en cite quelques passages. En 1966, Hollywood avait imaginé dans le film Le Voyage fantastique qu'un vaisseau sous-marin pourrait être miniaturisé avec son équipage de médecins pour aller déloger un caillot de sang dans le cerveau d'un éminent scientifique. Hier, à Polytechnique Montréal, l'ingénieur Sylvain Martel a annoncé que ce rêve deviendra bientôt réalité, à une exception près, ce seront des nanorobots qui inaugureront cette ère de médecine de précision. Quand j'ai lancé l'idée en 2001 en revenant du MIT, on disait que ça n'arriverait jamais, a expliqué Sylvain Martel, qui a dévoilé récemment un laboratoire de nanorobotique à Polytechnique Montréal. Aujourd'hui, en 2016, a-t-il déclaré, je peux dire que Montréal est devenue la Silicon Valley de la lutte contre le cancer. Tae Vuong, une oncologue de l'Université McGill et de l'Hôpital Général Juif de Montréal, qui assistait à ce dévoilement, a qualifié les travaux de Sylvain Martel d'avancées révolutionnaires. Ce mois-ci, dans la prestigieuse revue Nature Nanotechnology, Sylvain Martel avait montré qu'il est possible de guider une bactérie chargée de médicaments et d'un matériau magnétique vers une tumeur chez la souris. La bactérie est inoffensive. Nous allons maintenant voir comment on va arriver aux essais cliniques chez les humains, s'est enthousiasmé Sylvain Martel. Rappelons que l'an dernier, l'ingénieur montréalais avait réussi une autre première, permettre à un médicament de franchir la barrière entre le sang et le cerveau avec une technique d'hyperthermie qui sera aussi peaufinée dans le nouveau laboratoire du chercheur. Plus de 98% des médicaments ne parviennent pas à franchir cette barrière, a déclaré le chercheur, qui a récemment publié un livre intitulé « A Microscopic Submarine in My Blood ». C'est un livre qui détaille les comparatifs, les parallèles entre le film « Le Voyage Fantastique » et les travaux de l'auteur Sylvain Martel. Donc, si vous voulez plus de détails, l'article va beaucoup plus en profondeur. C'est dans le portail de la presse « Des nanorobots pour combattre les tumeurs ». On parle à présent de commotion cérébrale chez les jeunes. Une commotion cérébrale chez les jeunes peut avoir des effets à long terme. C'est aussi publié dans les pages santé du journal La Presse. Je vous en lis quelques lignes. Les jeunes qui souffrent de lésions au cerveau, comme des commotions cérébrales, sont davantage susceptibles de connaître des problèmes psychologiques ou de comportement sur le long terme, selon les résultats d'une vaste étude publiée récemment. Ces travaux publiés dans la revue PLOS Medicine se sont penchés sur 100 000 enfants et adolescents nés en Suède entre 1973 et 1985 ayant subi au moins un traumatisme cérébral avant l'âge de 25 ans. Les chercheurs ont comparé ce groupe avec leurs frères et sœurs n'ayant pas été blessés et les ont suivis jusqu'à l'âge de 41 ans en moyenne. Nous avons découvert qu'un traumatisme cérébral dans l'enfance prédisait de manière assez constante un risque ultérieur de mortalité prématurée, d'internement ou de consultation psychiatrique, un plus bas niveau d'éducation ou le fait que la personne aura droit au versement de pension d'invalidité, pardon, souligne l'étude qui était menée par Sina Fazel de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni. Les effets étaient d'autant plus marqués pour ceux ayant subi des traumatismes lourds ou récurrents et pour ceux blessés alors qu'ils étaient plus âgés, ajoute le rapport de l'étude. Alors, je vous laisse découvrir cet article. S'il vous intéresse, il est sur le portail de la presse dans la section santé du quotidien montréalais. Je vous parle à présent d'une bactérie qui a fait souffrir beaucoup de patients qui passaient à l'hôpital ou effectuait un séjour à l'hôpital. La bactérie C. difficile, peut-être en avez-vous déjà en parlé. Il y a un article dans la section santé du journal Le Devoir ces jours-ci à propos de cette bactérie. Le titre « Des patients infectés puis guéris peuvent propager l'infection à leur entourage ». Donc, il serait possible, selon cet article, de propager la C. difficile après avoir guéri de cette affection. Donc, même guéris de leurs symptômes, les personnes ayant souffert d'une infection au Clostridium difficile, connu sous le nom C. difficile, peuvent transmettre la bactérie aux individus et aux animaux vivant sous le même toit qu'elle. De ce fait, ces personnes contribuent à propager ce type d'infection dans la communauté, indique une récente étude de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill à Montréal. Donc voilà, donc c'est un article qui a aussi un passage sur la prévention. Je vous en lis quelques lignes, c'est à la toute fin de l'article. Il est très difficile d'éliminer les bactéries C. difficile de l'environnement parce qu'elles produisent des spores très résistante, précise le docteur qui était à la tête de cette étude. On peut toutefois réduire le nombre de ces bactéries afin de prévenir la transmission, afin de prévenir la transmission en nettoyant les surfaces avec un bactéricide comme l'eau de Javel ou le peroxyde. Le docteur à la tête de l'étude affirme qu'il est préférable de se laver les mains avec de l'eau et du savon plutôt qu'avec des gels alcooliques après s'être approché d'une personnes infectées car les spores du C. difficile résistent à l'alcool. Les gels à base d'alcool à l'entrée des hôpitaux restent néanmoins efficaces pour éliminer la plupart des bactéries. Je termine en vous signalant un article qui concerne les voyageurs. Comment se prémunir des risques de séisme lorsqu'on voyage. L'astuce consiste à choisir des destinations où le code du bâtiment est vraiment adapté à la zone sismique, donc est conforme et peut permettre au bâtiment de résister. Donc, dans la foulée du séisme qui est survenu fin août en Italie. On a cet intéressant article dans le portail l'actualité.com. Ça s'intitule « Faut-il avoir peur des zones sismiques ?» Je vous encourage à le lire si vous comptez voyager dans un secteur touché par les séismes historiquement sur la planète. Voilà, c'est tout pour cette portion Journal Santé de l'émission Sport et Santé Magazine. On va s'arrêter quelques instants. Au retour, je m'entretiendrai avec la massothérapeute Marie Arcan, avec qui je reviendrai sur la grande visibilité qu'a obtenue la pratique de la massothérapie durant les récents Jeux olympiques de Rio. On se retrouve tout de suite. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Sport et Santé Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire en matière de sport et de mieux-être. Nous avons à présent l'interview du jour côté santé. Nous sommes dans le versant santé de l'émission. L'émission va bientôt s'achever. Mais avant de se laisser, on va parler de massothérapie. Je suis avec Marie Arcan qui est au bout du fil. Marie Arcan est massothérapeute à la clinique Broadway Wellness Center à Vancouver. Et on a le prétexte des récents Jeux olympiques de Rio pour parler de massothérapie. Si vous avez suivi les Jeux olympiques le mois dernier, vous avez pu voir que les athlètes recevaient des soins en massothérapie, des soins quasi permanents. Bonjour Marie Arcan.
Bonjour.
Alors, du côté de Rio, on a vu dans les images qui nous étaient transmises des athlètes se faire soigner avant, pendant et même après leur prestation sportive. Qu'est-ce qui est si important là pour les athlètes? Ont-ils absolument besoin de ces soins? Ça leur apporte quoi concrètement?
Ben, on a vu dans plusieurs compétitions qu'il s'agit de millièmes de secondes parfois.
C'est vrai.
De centaines de secondes. Alors moi, ça m'a beaucoup impressionné. Une des choses qui fait la différence maintenant chez nos athlètes, parce que les athlètes d'avant avaient des belles performances, mais maintenant ça s'améliore. Il y a toujours des records qui sont atteints.
Oui.
Et une des choses qui fait la différence, c'est les soins que les athlètes reçoivent.
Absolument.
Alors, on a remarqué aussi que c'est des équipes multidisciplinaires, donc physiothérapie, massothérapie, chiropratie, sont tous des soins que les athlètes reçoivent. Il y a même des psychologues puis des consultants en nutrition. Alors, c'est ça qui fait une grande différence maintenant dans la performance des athlètes.
Absolument.
Alors,
Est-ce que les soins varient selon les disciplines? Ils se font tous masser, mais il y a des manières différentes, des focus différents selon la discipline, j'imagine?
Vu que c'est tout de la haute performance, c'est sûr que ça implique tellement les muscles, alors la musculature et le soin pour les muscles, c'est sûr que tous les professions que j'ai mentionnées contribuent. Alors, mais la massothérapie, c'est comme directement sur les muscles. Alors, c'est sûr que ça a un effet très grand.
Et vous est-il déjà arrivé de traiter des athlètes qui se destinaient à un haut niveau?
Non, pas personnellement. Mon expérience que j'ai eue, que j'ai beaucoup aimée, c'était de donner le massage après l'événement pour le Ironman.
Ah oui, quand même. C'est une discipline qui vraiment figure parmi les plus dures sur le corps. Donc vous avez suivi cet athlète avant, pendant et après l'épreuve?
Ben en fait, à la clinique du collège, on a traité des gens qui s'entraînaient. Alors pendant toute l'année, les gens venaient à la clinique de massage pour le sport.
Oui.
Et alors, pendant l'année, on donnait des traitements, surtout pour le soin à long terme des muscles et des tendons. Alors, être sûr qu'ils n'ont pas de tendinite, l'alignement du squelette, alors le bassin, la colonne, tout ça, on regarde ça pour contribuer avec le massage à réaligner le corps pour que tout fonctionne bien. Et aussi le soin des muscles, alors pour que les muscles se détendent bien, qu'ils soient en forme, qu'ils soient en santé, le massage contribue beaucoup à ça. Alors pendant l'année, on donnait les massages pour ça. Puis le jour de l'événement, c'est à la fin de la journée, alors c'était même le soir, là. Et les gens étaient épuisés, puis à ce moment-là, on aide beaucoup à la circulation de sanguine pour la récupération des muscles. Alors, parce qu'ils ont travaillé comme trop.
Oui.
Ils ont travaillé énormément. Alors, les muscles, pendant l'événement du Ironman, se contractent toute la journée. Puis, ils n'arrêtent pas. Alors, ils n'ont pas le temps de récupérer. Les muscles sont comme tellement fatigués. Alors, avec la massothérapie, on aide beaucoup, beaucoup les muscles à récupérer.
Et pour ceux qui nous écoutent, le Ironman, c'est du triathlon. Donc, ça inclut de la natation, du vélo et de la course, c'est bien ça?
Oui, et la course, je pense que c'est un marathon. Comme extrême.
Oui, voilà, extrême. C'est ce qu'on appelle un sport extrême. Oui. Enfin, dans l'effort que ça requiert et l'endurance et toutes sortes d'autres qualités mentales aussi.
Oui.
Et je suis étonné que les Jeux Olympiques ne l'aient pas encore programmé. Ce sera peut-être inclus un jour dans le programme des Jeux Olympiques, qui sait. Mais ça nous donne une bonne idée de ce que les massothérapeutes à Rio récemment ont dû faire. Est-ce que c'est récent, la massothérapie s'adressant aux sportifs? Est-ce que ça a toujours été sportif de haut niveau, je veux dire? Ou est-ce que c'est un ajout récent aux différents outils et services dont ils se servent pour vraiment pousser encore plus leur performance?
C'est relativement récent.
Oui.
Mais je pense qu'il y a au moins on pourrait retourner à peut-être à 12 ans, je pense. Au moins.
Oui, hein?
Oui. Parce que comme mon collègue qui est allé, il était là aux Jeux Olympiques précédents. Puis je regardais ça dans son dans son curriculum. Mais c'est relativement récent, mais le massage existe depuis toujours. Alors je pense que peut-être que si on avait l'information en ce qui concerne les Grecs,
oui.
La massothérapie faisait partie de leur style de vie.
Oui.
Alors probablement que c'était déjà intégré.
Oui, il y avait peut-être des équipes spécialisées en appui aux sportifs aux Jeux olympiques de l'ère antique, qui sait. Est-ce que votre clinique à Vancouver accueille beaucoup de sportifs? Est-ce que c'est une clientèle que vous souhaiteriez connaître davantage?
Ben, on reçoit beaucoup de sportifs parce que à Vancouver, les gens font du sport.
Oui.
Alors, à tous les jours, j'ai des gens qui font du sport. Je dirais plus que la moyenne, disons. Leur passe-temps, c'est le sport. Alors, le vélo, la course, il y a beaucoup d'événements aussi, ce qui encourage vraiment les gens à performer. Alors, quand il y a des événements dans la ville, comme les marathons, les demi-marathons, puis il y en a beaucoup autour, les gens adorent aller à Kelowna, il y a Whistler, il y a toutes sortes d'événements sportifs qui demandent de l'entraînement à l'année.
Oui.
Et c'est là que la massothérapie est super importante parce qu'on donne le support durant l'année. C'est pas juste comme après l'événement, c'est vraiment durant l'année, pour aider les gens à améliorer leur performance, leur bien-être durant leur événement.
Est-ce que pour un massothérapeute, c'est le rêve de s'occuper d'un athlète, puisque les athlètes ont des corps, des beaux corps, des corps en santé, est-ce que c'est plus agréable de travailler avec un athlète, avec quelqu'un qui a un projet d'excellence sur le plan sportif?
Ben, c'est sûr que c'est agréable de travailler avec les gens qui recherchent le mieux-être.
Oui.
Alors, mon optique, c'est plus comme d'aider les gens, tout le monde. En fait, ma pratique s'adresse vraiment à tout le monde. C'est sûr que quand il y a un sportif qui arrive, on change de focus, puis c'est vraiment une conversation un peu différente parce que la performance est vraiment un de leurs buts. Alors, il y a des massothérapeutes qui ont vraiment ça comme intérêt particulier, le sport. À ce moment-là, ils vont faire plus de formations continue avec cet intérêt-là. Alors, il y a toutes sortes de cours qui nous sont proposés durant notre carrière pour qui s'adressent vraiment aux sportifs, puis spécialement quand on a eu nos Olympiques ici.
Oui.
En 2010, c'est sûr que on a eu toutes sortes de cours qui ont été offerts, puis il y a des gens qui ont fait des formations sérieuses pour pouvoir devenir massothérapeute aux Jeux olympiques.
Ah, c'est intéressant. Donc, les Jeux olympiques ont influencé un petit peu la pratique régionalement autour de Vancouver.
Absolument.
Et c'est intéressant tout ce que partagent Vancouver et Rio de Janeiro. Ce sont deux villes qui ont accueilli les Jeux, mais ce sont deux villes aussi qui accordent beaucoup d'importance à la forme. On dit toujours que Rio, il y a un culte du corps, le culte du corps de la sur la plage. Les gens sont très très absorbés par l'exercice et l'activité physique, et c'est un petit peu le cas aussi à Vancouver, comme vous le disiez. C'est absolument fascinant.
Mais c'est l'apparence physique, mais c'est aussi le souci de santé.
Voilà.
Parce que avec le sport, c'est intéressant d'observer les différents sports, comment ça module le corps de façon différente. Et je trouve ça intéressant d'observer ça, comme les plongeurs versus les coureurs.
Absolument. Et la fonction cardiovasculaire aussi qui est utilisée différemment de sport en sport, la force.
Mais je pense que de nos jours, tous les sports requièrent un entraînement de toutes sortes.
Oui.
Alors, très varié, et je pense que c'est un des facteurs qui augmente leur performance.
Oui, puis sans vouloir diminuer les joueurs de ping-pong, quand on les regarde, ils ont l'air vraiment d'athlètes très, très en forme. Et justement, pour vraiment exceller au tennis de table, il faut être un athlète, finalement.
Oui,
ils ont vraiment des corps d'athlètes.
Oui, la rigueur de l'entraînement et de leur focus, c'est extrême.
Fascinant. Ben, malheureusement, le temps s'écoule de façon impitoyable et j'aurais eu beaucoup d'autres questions à vous poser, Marie Arcan. Un grand merci d'avoir participé à Sport et Santé Magazine, donc pour cette interview concernant la massothérapie et le sport d'excellence. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour reparler de massage dans l'émission Sport et Santé.
Je vous remercie, vous êtes bienvenue.
À bientôt, Marie. Au revoir.
À bientôt, au revoir.
Encore merci à Madame Marie Arcan. C'est sur cette interview que se conclut cette heure d'information autour des enjeux de sport, mieux-être et santé. Merci de l'avoir passé en notre compagnie. Alexis Gagnon au micro. Je vous invite à me retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Sport et Santé Magazine. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez dans les prairies et l'Ouest canadien.
Vous écoutez CLS-FM, l'unique radio communautaire francophone de la Colombie-Britannique.
Le parfum des salons, la lumière et le son d'une ambiance latine, la nuit donne le ton. Des femmes, le futur se dessine. Alors on bouge, on fait parler la foule. On joue à Gigi tout double. Le corps en feu, les yeux dans les yeux. On bouge, on se fond dans la foule. Les séduits dans le rouge. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Dans les lueurs du soir, on peut.
de quelques rêves, on recommence sa vie.